France Inter.
Pour beaucoup, c'est l'homme qui a dit non aux Américains et à la guerre en Irak. Dans un discours resté célèbre, c'était le 14 février 2003 à New York, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies.
Il y a une alternative à la guerre. Désarmer l'Irak par les inspections. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'une conscience.
Premier ministre de Jacques Chirac de 2005 à 2007, Dominique de Villepin, c'est aussi l'homme qui privatise les autoroutes, décrète l'état d'urgence au moment de la révolte des banlieues et met les étudiants dans la rue avec le contrat première embauche.
André du CPE.
J'écoute ceux qui manifestent. Mais j'écoute aussi ceux qui ne manifestent pas.
Dominique de Villepin semble ignorer les jeunes. On est de plus en plus, aujourd'hui on est 130 000 à Marseille.
Aujourd'hui, Dominique de Villepin est présenté dans certains sondages comme l'une des personnalités politiques préférées des Français. L'été dernier, il a lancé son mouvement, la France humaniste. Et il se distingue notamment par ses interventions sur le conflit israélo-palestinien.
On a Gaza qui est sans doute le plus grand scandale historique et dont plus personne ne parle dans ce pays. C'est le silence. La chape de plomb, les médias n'en parlent plus. Je suis obligé de googler pour trouver une brève qui me donne des nouvelles du nombre de morts qui se passent à Gaza.
Ses détracteurs rappellent ses connexions avec la France-Afrique et son rôle au sein du cabinet noir chargé d'étouffer les affaires autour de Jacques Chirac à l'Élysée. Il a été proche de l'intermédiaire sulfureux Alexandre Djoury, longtemps adversaire politique de Nicolas Sarkozy dans son propre camp. Dominique de Villepin est finalement relaxé dans l'affaire Clearstream. À 72 ans, ce passionné d'art contemporain, propriétaire de toiles de maître, se voit désormais un destin présidentiel et ses proches y croient.
C'est vrai, il a quelque chose de maman. Déjà, ils sont aussi grands l'un que l'autre. Puis ils ont une classe que j'aime bien, un panache. C'est pas donné à tout le monde.
Mais sur l'éventuelle route de l'Élysée, il lui faudra déclarer son patrimoine et les revenus qu'il tire de sa société de conseil.
Et moi, je n'aurais aucun problème à faire une totale transparence sur toutes mes activités si je devais être président de la République.
Alors, qui sont les clients de Dominique de Villepin? Ses liens supposés avec le Qatar sont souvent mis en avant. Pour révélation, Élodie Guéguin et Géraldine Allot ont enquêté et elles ont découvert que c'est en Chine que Dominique de Villepin fait des affaires et qu'il est proche du pouvoir.
Il voulait exister, se rendre sinon indispensable mais précieux auprès du gouvernement central. Si vous n'êtes pas bien avec le pouvoir central, eh ben vous ne faites pas d'affaires en Chine.
Quelles sont donc ces structures chinoises avec lesquelles l'ancien Premier ministre a noué des liens, lui qui se dit attaché à l'intérêt national? Comment justifie-t-il ses relations avec la Chine? Pour révélation, Dominique de Villepin a accepté de répondre à toutes les questions soulevées par notre enquête.
Révélation, le magazine de la cellule Investigation de Radio France, Benoît Colombat.
Et pour commencer, direction l'Université d'Assas, dans le 6e arrondissement de Paris, où on vous retrouve, Élodie Guéguin.
Nous sommes le lundi 3 novembre, nous sommes ici dans le grand amphithéâtre de la faculté d'Assas à Paris. Des centaines d'étudiants sont venus écouter Dominique de Villepin. L'ancien Premier ministre va nous parler des solutions possibles pour sortir de la crise institutionnelle. Il a lancé son mouvement politique cet été, la France humaniste. Il pourrait être candidat à la présidentielle. Alors on n'a pas trouvé de réunion publique à son agenda. On est donc venu ici pour écouter ce qu'il a à nous dire. Et dans la salle, il y a donc beaucoup de monde. Il y a également ses proches, son fils Arthur, Marie, sa fille, sa sœur également sont là pour écouter Dominique de Villepin.
Je terminerai par la formule célèbre du général de Gaulle, pleine d'ambiguïté, mais que je voudrais aujourd'hui, pleine de clarté, je compte sur vous.
C'est un gros succès, là, monsieur de Villepin, pour vous.
Il y a beaucoup de monde, tant mieux. Ça prouve que la démocratie marche et ça prouve que les politiques publiques attirent beaucoup de vocations. Ça, je m'en réjouis.
Tom Bouette, directeur général de la clinique d'affaires publiques d'Assas, étudiant en master 2 de droit public, parcours vie publique et relations institutionnelles.
Donc c'est vous faites partie des organisateurs, ça a été facile de le faire venir?
Disons qu'on sent qu'il a fait un comeback médiatique, qu'il multiplie les plateaux télé, il multiplie les conférences dans les universités. Donc forcément, c'est beaucoup plus facile de faire venir un Dominique de Villepin en 2025 qu'il y a une dizaine d'années où il s'était mis en retrait.
Un Dominique de Villepin en pleine lumière aujourd'hui, contrairement donc à la période où il était en retrait de la vie politique après son départ de Matignon en 2007. Alors, Élodie Guéguin, qu'a fait Dominique de Villepin ces dernières années ?
D'abord, il devient avocat en 2008, puis il fonde 7 ans plus tard sa société de conseil, Villepin International. L'ancien Premier ministre est toujours resté très discret sur ses affaires, d'où cette question qui revient sans cesse, qui sont ses clients ? Écoutez ce qu'il disait à ce sujet à Apolline de Malherbe en février 2024 sur BFM TV.
Je veux savoir qui vous paye.
Eh bien, aujourd'hui, l'activité de ma société, elle est complètement liée à deux sociétés françaises à qui je conseille. J'apporte des conseils sur le plan géopolitique. Point final.
En France.
Voilà, en France. Et en France, pour l'étranger. Et pour le reste, mes activités sont bénévoles, la plupart, dans le domaine de l'art et de la culture.
Alors, quelles sont ces deux entreprises françaises alors ?
Eh bien, la première, c'est Veolia. Selon nos informations, Dominique de Villepin est en contrat depuis 17 ans avec cette multinationale de l'eau et des déchets. C'est l'ancien PDG du groupe, dont il est proche, qui lui propose cet emploi. Une porte-parole de Veolia nous le confirme dans un mail que nous avons fait lire.
Veolia dispose d'un contrat avec Villepin International, signé en 2008 par Henri Proglio. Ce contrat porte sur des prestations de conseil dans le domaine de la prospective internationale, axée sur les questions environnementales plutôt que sur une zone géographique spécifique. Ce contrat est toujours en vigueur.
D'après nos informations, cette mission de conseil est très rémunératrice. Dominique de Villepin touche 800 000 euros par an jusqu'au départ d'Henri Proglio en 2010. Depuis, le montant de sa rémunération a été divisé par 4 pour atteindre donc 200 000 euros.
Et la deuxième entreprise française pour laquelle il travaille ?
Alors là-dessus, pour l'instant, mystère. Dominique de Villepin, que nous avons rencontré pendant une heure à la maison de la radio, n'a pas souhaité nous en dire plus. Il a tout de même fait œuvre de transparence il y a quelques mois en publiant les comptes de sa société. Dans ses bilans, on voit seulement qu'elle est largement bénéficiaire.
Mais on sait qu'il travaille beaucoup à l'étranger.
Oui, Dominique de Villepin est un homme qui voyage constamment, raconte son ami, l'ancien ministre Azouz Begag.
C'est un type qui est plus souvent dans les avions que sur Terre, en France, que dans l'Hexagone. Et donc, il a un regard comme un pilote de lead. J'ai l'impression que Villepin, il a cette vue mondiale. Il a une vue mondialisée par son travail. Là. Et donc, quand il revient à Paris, il se rend compte que c'est un petit pays, quand même. Mais il sait ce que sont les affaires du monde, depuis la Chine, depuis les États-Unis.
La Chine, les États-Unis, des pays où son statut d'ancien Premier ministre est un atout, estime François Goulard, ancien compagnon de route de Dominique de Villepin, dont il a été le ministre à l'enseignement supérieur.
Je me souviens en avoir parlé dans d'autres circonstances avec François Fillon, à la suite de son échec à la présidentielle, et il revenait, je crois, d'un voyage en Chine. Et il m'avait expliqué que le fait d'être ancien Premier ministre, dans un pays comme la Chine, c'était un atout parce que les officiels ou les anciens officiels étaient considérés. Jean-Pierre Raffarin m'a souvent dit la même chose.
Oui, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, dont les liens très étroits avec la Chine sont connus. Il est d'ailleurs le représentant spécial du gouvernement français auprès de Pékin. Et ce que vous nous révélez, Élodie Guéguin, avec Géraldine Allot, c'est que Dominique de Villepin, lui aussi, a des liens très forts avec la Chine.
Oui, nous avons découvert qu'il y multipliait les activités rémunérées et surtout qu'il était proche des autorités. Le discours qu'il a prononcé en 2003 à la tribune de l'ONU contre la guerre en Irak est vraiment resté dans les mémoires en Chine. Villepin, c'est l'homme qui sait dire non aux Américains, et ça, les Chinois apprécient, explique l'ancien ambassadeur de France à Pékin, Maurice Gourdeau-Montagne.
En Chine, il est, je dirais, vu aussi comme une incarnation de l'héritage chiracien. Chirac reste sans doute le président français le plus populaire derrière le général de Gaulle. Villepin se situe dans cette trajectoire et c'est comme ça qu'il est accepté et respecté par les Chinois qui lui proposent toutes sortes de, je dirais, d'enceintes ou de scènes pour s'exprimer.
Et c'est un général qui va l'introduire en Chine.
Oui, Christian Queneau, ancien chef d'état-major particulier de François Mitterrand, à sa retraite, il monte sa société de conseil et il travaille en Chine, notamment auprès d'une association, l'APCIO, qui regroupe des chefs d'entreprise de la zone Asie-Pacifique. Et lorsqu'il apprend qu'elle cherche des hommes politiques pour faire des conférences en Chine, Christian Queneau pense immédiatement à Dominique de Villepin.
J'avais rencontré le père de Dominique de Villepin et je lui ai demandé si ça pouvait intéresser son fils. Et donc il m'a mis en contact avec lui et Dominique a accepté tout de suite de venir faire des conférences en Chine.
Dans la foulée, Dominique de Villepin est nommé président de cette association, l'APCIO, et il multiplie les conférences dans les provinces chinoises.
C'était des conférences, généralement, lui, c'était des sujets internationaux, de relations entre États, d'influence, et parfois avec un aspect économique et culturel. Et ça avait lieu dans différentes provinces de Chine, où il y avait donc le gouverneur qui représentait le gouvernement, et aussi le secrétaire général du parti, qui lui avait le pouvoir. Et les plus hautes autorités et aussi les principaux chefs d'entreprise de la région.
Et on sait combien ces conférences sont rémunérées ?
Oui, d'après un document interne de l'association que nous avons pu consulter, pour deux conférences dans deux provinces chinoises en 2008, Dominique de Villepin a été payé 900 000 yuan, soit l'équivalent de 94 000 euros à l'époque. Nous avons fait lire un extrait de ce document.
Les sommets sont pris en charge par les municipalités de Chengdu et de Zhengzhou. Nous prévoyons de verser 900 000 yuan à Monsieur Dominique de Villepin.
Et ce document, il précise même que par rapport à d'autres conférences données par des personnalités en Chine, ce ne sont pas des entreprises qui ont réglé la note cette fois-là, mais bien les autorités.
Cette fois-ci, l'événement est sponsorisé par le gouvernement qui a des restrictions budgétaires pour l'organisation de conférences. Veuillez demander l'avis de M. Dominique de Villepin. Si pour une raison quelconque, il n'est pas satisfait des honoraires, nous essaierons de prendre des mesures commerciales afin d'augmenter les honoraires de conférences.
Et de la même façon, toujours selon ce document, ce sont les provinces chinoises qui ont pris en charge les frais de déplacement, comme nous le confirme le général Queneau.
Les conditions de voyage en particulier, ils voyageaient en première, moi je voyageais en business.
Les frais d'hébergement étaient pris par le gouverneur de la province ou c'était l'association ?
C'était l'association, mais qui profitait des fonds que lui avait donné le gouverneur de la province.
Dans le cadre de son mandat de président de cette association, Dominique de Villepin a multiplié les visites touristiques, y compris dans une nurserie de pandas où on le voit posé avec un animal de 43 kilos sur les genoux. Cette séquence, elle a beaucoup plu en Chine. Le général Queneau était à ses côtés ce jour-là.
Il voulait exister et il voulait se rendre, sinon indispensable, mais précieux auprès du gouvernement central.
Il voulait être bien avec le pouvoir central parce que c'est aussi la seule manière de faire des affaires en Chine.
Absolument. Si vous n'êtes pas bien avec le pouvoir central, vous ne faites pas d'affaires en Chine.
Et que répond Dominique de Villepin à tout ça ?
Eh bien, il nous dit avoir été payé par cette association de chefs d'entreprise, mais il reconnaît tout de même que l'argent vient initialement des autorités chinoises.
C'est une association privée d'entrepreneurs, financé par les provinces, ça ne veut pas dire que ce ne soit pas abondé par des entreprises. Donc, il ne faut pas regarder les choses par le petit bout de la lorgnette. Tout ça participe d'une volonté de mieux comprendre le monde. Et c'est pour cela que j'ai accepté. L'importance de l'Asie, l'importance de la Chine justifiait, à mon avis, qu'on ne se contente pas de quelques lectures dans les journaux français ou internationaux, mais d'essayer de rentrer dans le logiciel. Et tout l'intérêt d'une association comme Asie-Pacifique CEO, c'est de permettre de rentrer dans la compréhension de l'intérieur de la Chine.
Dominique de Villepin nous précise aussi qu'il ne préside plus cette association.
Mais des interventions publiques en Chine, des conférences rémunérées, vous avez découvert qu'il en fait très régulièrement depuis près de 20 ans.
Oui, en épluchant la presse chinoise, nous avons listé une cinquantaine d'événements auxquels il a participé, des salons comme celui des logiciels informatiques, la foire exposition d'Asie du Nord-Est, la foire commerciale de Chine centrale, citons aussi le Boao Forum pour l'Asie, ou même le salon nautique de Nantes. Chabet, dans le sud du pays, dont il est devenu membre honoraire.
Et à chaque fois, est-ce qu'il est rémunéré ?
Lui dit que non, que 90% de ses interventions sont bénévoles. Pourtant, 5 agences proposent ses services comme conférencier, c'est ce qu'on a constaté. L'une d'elles facture d'ailleurs 85 000 euros, une intervention de l'ancien Premier ministre en Asie, frais d'agence inclus.
Révélation. Benoît Colomba sur France Inter.
Alors je me tourne maintenant vers vous, Géraldine Allot, avec Élodie Guéguin. Vous avez également constaté que Dominique de Villepin avait conseillé une entreprise liée au pouvoir chinois.
Oui, nous sommes en 2013. L'agence de notation chinoise Dagong, proche des autorités, décide de s'allier avec une concurrente russe et une américaine pour créer une nouvelle agence, l'UCRG, basée en Chine. L'idée est de concurrencer les mastodontes anglo-saxons Moody's, Fitch, Standard & Poor's, qui est mettent des notes souveraines peu favorables aux pays émergents, estime Pékin. L'économiste français Norbert Gaillard a été expert auprès de l'UCRG. Il se rappelle de son lancement en grande pompe, c'était en 2013, donc à Hong Kong, en présence de Dominique de Villepin.
On était dans une très grande salle, on était dans un hôtel 5 étoiles, c'était soigné, il y avait de l'argent. C'était un événement qui était fastueux, en tout cas qui était de grand standing. Et c'est ce que voulaient évidemment les Chinois, ça se sentait. Il y avait la volonté de montrer qu'il y avait des moyens qui étaient mis au service d'une entité qui avait de l'ambition et il fallait le montrer.
Et que faisait exactement Dominique de Villepin au sein de cette nouvelle agence de notation ?
Il présidait son conseil consultatif, se souvient l'Autrichien Thomas Missong, responsable à l'époque de l'Association européenne des agences de notation.
Il était, on pourrait dire, ambassadeur de ce projet à niveau international, avec l'objectif de promouvoir cette initiative. À côté de lui, il y avait beaucoup d'autres premiers ministres d'Australie, d'Inde, d'autres du Pakistan. Donc il faisait pas partie directement de la gouvernance de ce projet, mais il était conseiller de ce projet.
Et à ce titre, Dominique de Villepin prononce un long discours lors du lancement de l'agence auquel assistait l'économiste Norbert Gaillard.
C'était clairement un discours qui était très critique à l'égard des États-Unis. C'est ce que voulaient de toute façon les Chinois. Et à un moment donné, pour se faire une place, pas seulement dans le monde de la notation, mais plus largement pour essayer de s'imposer comme un acteur majeur, comme une grande puissance qu'elle est devenue, il y a nécessité d'avoir des discours qui insistent sur les failles ou les faillites du modèle américain, parce qu'il y en a eu quand même, hein.
Oui, cette critique du modèle américain hégémonique, elle peut effectivement se justifier, Géraldine.
Oui, sauf que l'agence était sans doute trop proche de Pékin et le projet a fait long feu, explique Thomas Missong.
Le concept n'était pas vraiment clair, pas assez détaillé. Et en plus, personne ne voulait rentrer dans une potentiellement domination chinoise. Donc il fallait clairement clarifier ces structures et ça n'a jamais été fait. Et donc, le projet n'a pas abouti.
Alors, cela dit, il y a d'autres entreprises chinoises qui ont ensuite fait appel à Dominique de Villepin.
Oui, en 2015, il accepte un poste au comité consultatif d'un des plus gros fonds d'investissement chinois, le fonds Minsheng. Et en 2021, il conseille les dirigeants du fonds hongkongais Cedar Lake, spécialisé dans la levée de capitaux. Écoutez ce que l'ancien Premier ministre nous en a dit lors de notre entretien avec lui.
Ce sont des comités consultatifs, hein, donc ce ne sont pas des comités exécutifs, ce ne sont pas des conseils d'administration, donc ce sont des conseils où des personnalités du monde diplomatique et du monde des affaires se réunissent pour réfléchir sur ce que pourraient être les développements du monde et là où il y a sans doute le plus intérêt à porter l'attention. Je suis resté un an et demi dans cette activité. On recevait une allocation, qui est vraiment, je ne dis pas symbolique, parce que je ne méprise pas ce genre de choses, mais enfin qui n'est pas, qui ne constitue pas un montant substantiel.
Donc lui minimise l'importance de son activité au sein de ses fonds d'investissement.
Oui, sauf qu'on est en Chine, souligne le sénateur LR Pascal Alizard, vice-président de la Commission des Affaires étrangères. Il s'est rendu là-bas à plusieurs reprises et il explique que travailler au service d'entreprises chinoises, ça sous-entend une forme de proximité avec les autorités.
Les entreprises chinoises, elles sont à la main du gouvernement chinois. Donc il y a forcément une dimension politique. Alors, soit on ne la voit pas, soit on ne veut pas la voir, mais elle est forcément là, parce que le système politique et économique chinois ne dissocie pas les deux.
Alors, est-ce qu'il est vraiment proche du régime chinois? Pour savoir ce qu'il en est exactement, vous vous êtes plongé dans les archives de la presse chinoise.
Oui, et nous avons découvert que Dominique de Villepin adressait régulièrement ses félicitations au président Xi Jinping, notamment en 2017, à l'issue du 19e congrès du PCC, le Parti communiste chinois, congrès qui a consacré l'autorité sans partage de Xi Jinping, dont la pensée a été inscrite dans la constitution du parti, à l'image de Mao Tse-tung. La télévision chinoise CGTN interroge alors Dominique de Villepin. Nous avons retrouvé son intervention. Il s'exprime en anglais.
À un moment où nous assistons à une évolution très inquiétante des États-Unis qui se retirent de la scène internationale et deviennent davantage un problème pour le monde qu'une solution, nous avons besoin d'une Chine forte. Et c'est peut-être le message le plus important de ce 19e congrès du parti. La Chine est de retour, et elle est de retour pour de bon.
Quand on lui rappelle ses propos, Dominique de Villepin explique qu'il connaît bien le président Xi Jinping et que cela fait partie des usages diplomatiques de féliciter les dirigeants étrangers après leur élection. Il précise qu'il a prononcé ses félicitations après celles officielles des autorités françaises.
Mais ce n'est pas tout, Géraldine. Dominique de Villepin a aussi fait la promotion du projet phare du président chinois.
Oui, les nouvelles routes de la soie. C'est un immense projet d'infrastructure terrestre, portuaire, ferroviaire, mais aussi de télécommunications en partance de Chine et à destination de toute l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe. Il a été lancé par Xi Jinping en 2013, l'idée étant notamment d'avoir de nouveaux débouchés pour les produits chinois, explique Paul Charron. Il est directeur du renseignement à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire et spécialiste de la Chine.
Ça a été perçu comme quelque chose de très positif au début, puisque ça permettait de faciliter le développement de régions enclavées, puisque à l'origine, c'est aussi l'Ouest chinois qu'il fallait désenclaver. Alors que ce fut intentionnel au début ou pas, les Chinois utilisent ce système pour prendre possession de bouts de territoire ou pour imposer des contrats qui sont complètement inégaux, pour reprendre un terme que les Chinois affectionnent, entre la Chine et ses partenaires.
Et c'est donc ce projet dont Dominique de Villepin vante les mérites régulièrement.
Oui, dans la presse chinoise, mais aussi française. Il a écrit une tribune dans les Échos en 2015 en faveur des nouvelles routes de la soie. Et deux ans plus tard, le canal français de la chaîne chinoise CGTN organise une table ronde sur le sujet. Dominique de Villepin est invité et accueilli chaleureusement.
Dominique de Villepin, bonjour. C'est en fait pas la peine de vous présenter parce que vous êtes mondialement connu, non seulement parce que vous avez été le Premier ministre de la République française et surtout, vous avez prononcé un discours à l'ONU basé sur les valeurs de vieille Europe contre l'invasion en Irak. Vous avez marqué l'histoire et actuellement vous dirigez une société Villepin International. Vous donnez des conseils aux investisseurs internationaux sur les grands projets. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vraiment le bienvenu.
Et donc ce jour-là, Dominique de Villepin dit tout le bien qu'il pense des nouvelles routes de la soie.
C'est à la fois un projet qui se veut de paix, c'est un projet de développement, c'est un projet qui se veut innovant, sur le plan des nouvelles technologies.
Oui.
C'est un projet qui se veut respectueux du développement durable et de l'environnement. Et en même temps, c'est un projet qui nous offre un avenir commun. Donc on voit bien que oui, c'est un grand projet politique qui répond aux aspirations des peuples.
Un grand projet politique qui répond aux aspirations des peuples, sauf que la réalité est quand même un peu moins idyllique.
Oui, car les travaux d'infrastructure financés par Pékin sous forme de prêts gigantesques ont fait exploser la dette de nombreux États qui voient aussi des parties essentielles de leur territoire passer sous pavillon chinois, comme au Pakistan par exemple et en Grèce, où deux ports majeurs sont désormais exploités par la Chine. À tel point que des spécialistes estiment aujourd'hui que les nouvelles routes de la soie sont synonymes de prédation. C'est aussi ce que craint le sénateur LR Pascal Alizart, qui a co-présidé une mission d'information sur le sujet en 2018.
ça peut finir en prédation parce que dans un certain nombre de pays, la prise de conscience du risque financier, la prise de conscience, la prise de contrôle en fait sur la souveraineté, pour certains n'était pas mesurée, pour d'autres ils ne préféraient pas l'avoir. Donc ça peut finir en prédation, absolument.
Mais lorsqu'on l'interroge, Dominique de Villepin reste persuadé de la pertinence de ces nouvelles routes de la soie.
S'il y a naïveté, elle n'est pas de mon côté, elle est du côté de ceux qui n'ont pas voulu voir que ce projet allait prospérer. Moi, ce que j'ai voulu signifier, c'est que ce projet était d'une très grande ampleur, qu'il était une réponse à un certain nombre des besoins du Sud global, que bien évidemment il y a eu des échecs, que bien évidemment il y a eu des excès. Mais la preuve du fait qu'il n'y a aucune naïveté, c'est l'importance qu'a revêtu ce projet. Ce projet, aujourd'hui, est un projet de premier plan dans la vie internationale, dans la vie diplomatique.
Alors, on va s'arrêter là pour le moment, mais surtout, restez avec nous. Dans un instant, on va vous révéler que Dominique de Villepin préside une association qui est aussi un outil d'influence chinois.
Décorer le labyrinthe, le temps d'une vie. Cueillir raisin de Corinthe et pêche rubis. Marcher, courir, nous éreinte. Là, restons assis au milieu du labyrinthe. Sans chercher d'issue, tu te promènes seul dans ta vie, comme si c'était celle, celle d'une autre, tu te seule dans ta vie, comme si c'était celle d'une autre. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines ou les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe. Sois sans hâte, sois sans crainte. Reste un peu ici, la porte joliment peinte. On tombera dessus, suivre une trace, une empreinte. Nous pouvons, ma fille, mais ce chemin qu'on emprunte, on le rend, tu sais. Tu te promènes seul dans ta vie, comme si c'était celle, celle d'une autre. On se promène seul dans nos vies, comme si c'était celle des autres. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines, les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines, les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe. Laisse-moi aller, car le jour se lève. Laisse-moi décorer le labyrinthe. Tu crois que tu vis, mais c'est ainsi qu'on meurt. Du piège où tu es pris, tu fais une demain. Laisse-moi aller, car le jour se lève. Laisse-moi décorer le labyrinthe. Le labyrinthe. Les mains pleines, les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe.
Le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines ou les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe.
Le labyrinthe, extrait du dernier album de Feu Chatterton.
France Inter. Révélation. Benoît Colombat.
Et retour à notre enquête sur les affaires de Dominique de Villepin en Chine. Élodie Guéguin, vous avez aussi retrouvé sa trace là où on ne l'attend pas forcément.
Oui Benoît, si je vous dis sommets enneigés, randonnées en altitude, vous ne pensez pas forcément à Dominique de Villepin. Et pourtant, depuis 2017, il préside l'Alliance internationale du tourisme de montagne, l'IMTA. Son nom ne l'indique pas, mais c'est une association de droit chinois créée avec le soutien de la province du Guizhou et du Conseil des affaires d'État à Pékin, c'est-à-dire le gouvernement central.
Et comment Dominique de Villepin s'est retrouvé à la tête de cette association ?
Nous avons posé la question à Serge Koenig, ancien vice-consul à Chengdu en Chine et pendant longtemps guide de haute montagne. Il est également expert auprès de cette association.
C'est évidemment pas lui qui a toqué à la fenêtre de l'IMTA pour en être le président. À ma connaissance, c'est le gouvernement qui s'est concerté avec quelques ambassades pour trouver un nom, une personnalité politique non chinoise avec un charisme international pour en devenir le président et apporter un rayonnement à cette association.
Une association qui cherche à promouvoir un tourisme plus responsable, mais qui est aussi un instrument de soft power, un outil de promotion de la Chine, admet Serge Koenig.
L'IMTA est aussi un outil de promotion du Guizhou. Évidemment, la province du Guizhou crée, fonde, finance une instance internationale. C'est évident aussi que c'est pour promouvoir la province et pour attirer vers elle des savoir-faire expérimentés pour son propre développement. Ça paraît clair.
Et Dominique de Villepin, est-ce qu'il est rémunéré ?
Oui, en tant que président de cette association, encore aujourd'hui, il perçoit une indemnité, mais elle n'est pas énorme selon lui. D'ailleurs, il nous précise que ses activités en Chine ne seraient pas si lucratives.
Ce sont des activités en marge de mon activité. Elles ne représentent pas grand-chose sur le plan financier. En Chine, les choses ne sont pas au hasard. Vous savez, les choses sont très très réglées, les rémunérations sont fixées de façon très claire. Et si vous voulez faire fortune, c'est pas en Chine que vous allez exercer ce type d'activité. J'aurais pu faire la même chose aux États-Unis à un montant 3 à 4 fois supérieur.
Et Dominique de Villepin tient aussi à préciser que ses activités en Chine ne constituent que 8 à 10% de son chiffre d'affaires.
Sauf que pour la Chine, le bénéfice est grand en termes d'image.
Oui, c'est ce que nous ont confié plusieurs interlocuteurs en étant aussi présents en Chine, en félicitant publiquement les autorités. Dominique de Villepin participe à légitimer l'action de Pékin. Écoutez l'analyse de Paul Charron de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire.
Ce que la Chine recherche, c'est une forme de légitimation. C'est prouver que, à l'étranger, il y a plein de personnalités de premier plan qui reconnaissent la position de la Chine aujourd'hui sur la scène internationale, le rôle qu'elle doit y jouer, le fait que parfois le système international devrait être transformé, adapté au modèle chinois et à ses intérêts. Donc ils peuvent récompenser les gens qui portent ce discours-là par des postes dans certaines entreprises chinoises, par des conférences qui peuvent être rémunérées parfois très chères, en les invitant aussi, c'est pas que financier, ça peut être lié à l'ego aussi, donc ils peuvent être invités à participer à des événements importants en Chine, et être présentés comme des amis de la Chine, et voilà, c'est aussi une forme de rétribution symbolique.
Et ce qui interpelle, c'est que dans le même temps, nous n'avons pas trouvé de déclaration un peu critique de Dominique de Villepin, où il évoquerait le sort des Ouïghours ou celui des Tibétains, deux minorités dont les droits sont bafoués par Pékin. Lui nous explique que si, il aborde ce genre de sujet, mais pas forcément en public.
Révélation sur France Inter.
Et l'intérêt de Dominique de Villepin pour la Chine, on le retrouve également dans le monde de l'art, Géraldine Allot.
Oui, il faut d'abord rappeler que Dominique de Villepin est un passionné d'art contemporain. Il suffit de pénétrer dans son appartement parisien pour s'en rendre compte, nous raconte son ami, l'ancien ministre Azouz Begag.
Franchement, on a l'impression de rentrer dans un musée. Des tableaux, hein, 3 mètres sur 3,
peut-être plus, des objets magnifiques partout. Et là, on est encerclé dans son intimité par la présence de toutes ces choses qui vous regardent là, dans ce grand appartement, et c'est...
Dominique de Villepin, qui est plus qu'un simple collectionneur, nous avons découvert qu'il faisait aussi du conseil dans le domaine du marché de l'art. Pour cela, il a changé les statuts de sa société Villepin International. C'était en 2022.
Et Dominique de Villepin a ouvert une galerie avec son fils à Hong Kong.
Oui, en mars 2020, en pleine pandémie de Covid, au moment où le monde se calfeutre, il inaugure avec son fils Arthur une galerie d'art contemporain de 280 mètres carrés sur Hollywood Road à Hong Kong. Cette ouverture a rencontré un large écho en Chine, raconte la galeriste Magda Daniz, elle-même installée à Paris et à Shanghai.
C'est extrêmement important pour un public chinois d'avoir cette double confiance et de l'ancien dirigeant, mais aussi du réel amoureux de l'art. Il faut comprendre qu'en Chine, l'art est probablement ce qu'il y a de plus haut dans la société. C'est réellement quelque chose qui est valorisé. Le fait que ce soit une personnalité connue comme Monsieur de Villepin qui fonde la galerie est extrêmement important quand on vend des artistes.
Et cette galerie à Hong Kong, est-ce qu'elle lui rapporte de l'argent ?
Alors non, nous a précisé Dominique de Villepin, puisque c'est son fils qui en est le propriétaire et l'actionnaire principal. Il n'en est que le cofondateur.
Mais le moment choisi pour l'ouverture de cette galerie à Hong Kong est... assez particulier.
Oui, en 2019-2020, il y a eu des manifestations monstres à Hong Kong en faveur de la démocratie dans cette ancienne île britannique rétrocédée à la Chine il y a 20 ans et où a longtemps subsisté dans la population le rêve d'un pays deux systèmes. Manifestations durement réprimées par le régime chinois, rappelle le chercheur Paul Charon.
C'est un moment où, en fait, le pouvoir central à Pékin essaye de renforcer sa mainmise sur l'île de Hong Kong, notamment en instaurant une loi sur la sécurité nationale qui permet de, finalement, d'entraver toute ambition de démocratisation de Hong Kong. Et donc, il y a des manifestations très importantes, essentiellement de la jeunesse, des étudiants, qui vont voir se déployer aussi une répression très forte de Pékin. Donc voilà, c'est une période très intense, très violente.
Sur cette temporalité, l'entourage de Dominique de Villepin nous répond que la galerie tenue par son fils a été ouverte après les grandes manifestations à Hong Kong, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Elles se sont poursuivies jusqu'en juin 2020, trois mois après l'ouverture de la galerie.
Alors on va bientôt conclure toutes ces activités, qu'elles soient rémunérées ou non, cette proximité entre Dominique de Villepin et les autorités chinoises. Elle pose forcément question dans la perspective d'une éventuelle candidature à l'élection présidentielle.
Oui, c'est ce que souligne notamment le sénateur LR Pascal Alizard, vice-président de la Commission des Affaires étrangères.
Vous avez là, et il n'est pas le seul, une personnalité politique quand même de premier plan, qui a mis en arrière sa carrière politique nationale, internationale, et qui a fait, alors je ne sais pas s'il faut appeler ça, du consulting, du développement, du lobbying, enfin il y a des tas de noms sur un certain nombre de sujets, y compris la Chine. Pourquoi pas, après tout, partir du moment où les choses sont claires, demain il veut revenir en politique, c'est un autre sujet.
D'autres vont plus loin et estiment qu'avoir eu ce genre d'activité est difficilement compatible avec la fonction présidentielle. C'est l'avis de François Goulard, l'ancien ministre de Dominique de Villepin, aujourd'hui trésorier du parti Horizon d'Édouard Philippe.
Quelqu'un qui ambitionne d'être président de la République ou d'exercer des responsabilités à haut niveau au sein de l'État ne doit pas avoir de lien, même passé, avec soit des gouvernements étrangers, soit avec des entreprises proches du pouvoir dans un certain nombre de pays. C'est totalement incompatible. Le service de l'État requiert une indépendance totale vis-à-vis d'intérêts économiques et financiers, y compris en France, et une indépendance totale, évidemment, vis-à-vis de puissances étrangères.
En revanche, pour Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, ses activités en Chine constituent un atout dans la perspective d'une candidature de Dominique de Villepin, qu'il côtoie régulièrement.
Dans ce que je connais, moi, au jour d'aujourd'hui, rien ne me choque. Ben, la Chine, on n'est pas en guerre avec la Chine. Donc la Chine, elle est en Chine, c'est très bien. Ça m'inquiéterait que tel ou tel candidat important n'ait jamais été en Chine. La Chine, c'est le numéro 1 bis dans le monde actuel. Comment voulez-vous avoir une idée sur la façon de gouverner ou présider éventuellement la France sans avoir un minimum de connaissances de la Chine ?
Et là-dessus, que vous a répondu Dominique de Villepin ?
Qu'il n'est pas sous l'influence du régime chinois, ni d'ailleurs d'aucune puissance étrangère.
J'ai soigneusement fait attention de me tenir à distance, justement, de tout ce qui pouvait constituer un réseau d'influence, un réseau d'intérêt. Je l'ai fait tout au long de ma carrière, et vous ne trouverez jamais de réseau d'intérêt, de grands responsables de milieux d'affaires, de grandes baronnies, de grandes fortunes, qui constituent une ombre sur l'activité qui a été la mienne.
Ces activités seront de toute façon scrutées par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique si Dominique de Villepin décidait d'officialiser sa candidature pour l'Élysée.
Merci Géraldine Allot pour cette enquête avec Élodie Guéguin. Enquête que vous pouvez retrouver en longueur sur notre site et sur l'appli Radio France avec une vidéo pour tout comprendre réalisée par Nicolas De Witt de la cellule d'investigation de Radio France. Et si vous avez des informations à nous communiquer, vous pouvez le faire à cette adresse sécurisée alerte.radiofrance.fr. Révélation, c'est terminé. Pour aujourd'hui, cette émission a été préparée par Raphaël Canezan et réalisée par Christophe Imbert. À la programmation musicale, il y avait Jean-Baptiste Audibert et à la technique Corentin Rouchy. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain numéro de Révélation.